Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Le numéro hors série de Pellerin sur la bataille de Verdun est en kiosque depuis hier. Franck Ferrand l'a parcouru et il y a même participé. Bonjour Franck.
Bonjour Anissa, bonjour à tous. On va commémorer en effet dimanche le centenaire du déclenchement de ce qu'on appelle la bataille de Verdun et qui en fait constitue presque une année de combats sanglants, vous savez, aux limites de l'absurde, du début à la fin de 1916. Pour en parler cet après-midi, Sophie Laurent, en charge des dossiers histoire à Pellerin. Il y a d'ailleurs un dossier spécial dans le numéro hebdomadaire de Pellerin. Et puis l'historien Jean-Yves Le Naour, qui connaît si bien la Grande Guerre.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck vous répondra à la question de Claude, qui veut en savoir plus sur l'origine des sous-marins.
Des sous-marins qui, en vérité, ont vu le jour bien avant la Première Guerre mondiale. Pour le moment, nous repartons 100 ans en arrière, donc 100 ans presque jour pour jour.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et oui, nous y arrivons au centenaire de cette effroyable bataille de Verdun en 1916 qui aura été, vous le savez, la plus meurtrière de toutes les batailles de la Grande Guerre. 362 000 morts dans le camp français, je ne parle pas des innombrables blessés, 336 000 morts dans le camp des Allemands, en tout 700 000 morts. 700 000 morts, c'est la population entière de toute la zone urbaine de Bordeaux, par exemple. C'est complètement affolant. Ce sont des chiffres que nuancera, si je comprends bien, Jean-Yves Le Naour tout à l'heure. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Il faut vous dire qu'en 1915, les Allemands étaient largement sur la défensive. Ils ont résisté à un certain nombre d'offensives françaises. Le généralissime allemand von Falkenhayn s'occupe essentiellement du front Est. Et à la fin de 1915, on décide du côté allemand de faire porter l'effort sur le front Ouest, de créer des abcès de fixation en hommes et en matériel et de hâter la dislocation de l'Alliance de cette façon. Alors, on a le choix, bien entendu, sur l'endroit où l'on peut faire porter cette espèce d'énorme offensive. Ça pourrait être à Belfort, où il s'agirait d'attirer les réserves alliées sur un secteur le plus excentré possible. En l'occurrence, on va choisir Verdun sur la Meuse. Verdun, où se trouve la 5e armée du Nord. Le Crown Prince tient à Verdun, son père aussi du reste, l'empereur, le Kaiser. C'est un secteur plutôt calme que l'on sait relativement mal défendu par les Français. Verdun, c'est le cœur de la France, disait le Crown Prince. Et c'est vrai que les Allemands, par le saillant de Saint-Mihiel, hein, au sud-est du dispositif, ont comme un coin déjà enfoncé dans le front. Donc, les Allemands choisissent Verdun et ils vont déployer sur place vraiment un feu roulant extraordinaire, une préparation d'artillerie en roulement de tambour, si l'on veut essayer de traduire la formule, Trommelfeuer. Cette artillerie lourde allemande va faire des dégâts considérables. Elle est très importante. Vous savez qu'en 14, elle a montré sa supériorité en écrasant un certain nombre de forts à Liège, Namur, Anvers, Maubeuge, etc. Juste une parenthèse d'ailleurs pour vous dire qu'en août précédent, en août 1915, on a désarmé les forts. Ça, c'est une directive sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure, mais qui a sans doute eu des conséquences du côté français, je veux dire. Donc la stratégie allemande, c'est d'enfoncer le front pour reprendre en quelque sorte l'avantage dans le conflit, c'est de créer de véritables saignées. Hein. On veut des combats meurtriers, c'est-à-dire que contrairement à un certain nombre de batailles dont on pourrait dire que leur caractère plus ou moins meurtrier est un effet involontaire des combats, là en l'occurrence on cherche à faire couler le sang. L'offensive est sur la rive droite de la Meuse, il y a sur la rive gauche des troupes en réserve en cas de riposte de grande ampleur. C'est peut-être ça la chance des alliés. Encore une fois, cette histoire là aussi de choix stratégiques essentiels, nous y reviendrons tout à l'heure. Alors du côté français, on a fait montre, il faut le dire, dans ce secteur d'une relative négligence, malgré les terribles combats, des combats au corps à corps, hein, sur la crête des Éparges au sud-est de Verdun. Certains ont mis l'accent sur les insuffisances du front à cet endroit. On n'a qu'une ligne, par exemple, alors que sur la plupart des points du front, on a quand même trois lignes. Deux, voire trois lignes. Un parlementaire dont on aura l'occasion de parler tout à l'heure, le lieutenant-colonel Drian, j'ai déjà consacré au moins 2 émissions, je crois, à Drian ici, qui était membre de la commission de défense nationale et qui commandait des chasseurs à pied dans le secteur du Bois des Cours. Drian a obtenu une visite sur place de Gallieni en personne, Gallieni ministre de la guerre. On est là juste avant l'offensive, hein, en décembre 1915. En face, les Allemands sont en train d'affûter leurs armes. Ils ont des renseignements très, très importants. Nous en avons aussi, grâce au deuxième bureau, bien entendu, grâce à des transfuges, je pense notamment à des déserteurs alsaciens qui renseignent l'état-major français. Pour autant, l'état-major français réagit relativement peu et relativement mal. Disons-le, nous avons été surpris par cette offensive du 21 février 1916. À 5 heures du matin, on est en février, et c'est un février très froid. Hein. Il y a de la neige, il y a un blizzard épouvantable. À 5 heures du matin, dans ce paysage de neige, c'est le déluge de fer et de feu. 1225 pièces d'artillerie qui vont du petit canon de 150 aux espèces de pachydermes de 420, contre les forts, bien entendu. Il faut savoir que Verdun est entouré d'une constellation de positions fortifiées. Le commandant du secteur, le général R, a pris des mesures, évidemment, pour essayer de contrer, mais ce sont des mesures qui sont disproportionnées par rapport à l'énormité de l'offensive. Parce qu'il faut quand même que je vous dise que on a décidé du côté allemand, et ça c'est la volonté de Falkenhayn, de tout concentrer sur une largeur de 8 kilomètres seulement. C'est-à-dire que ce n'est pas une offensive de très vaste ampleur, c'est une offensive puissantissime, mais c'est un véritable coin que l'on veut enfoncer, encore une fois. Il y a toutes sortes de petits bois dans la région, Aumont, Herbebois, les Cours dont je vous parlais. Tout ça va être rasé, nivelé, troué de partout, avec des cratères, des trous d'eau, un paysage de fin du monde qu'on a beaucoup vu et qui peu à peu va se mettre à symboliser à lui tout seul l'ensemble de la Grande Guerre. Devant le rouleau compresseur allemand, étroit donc mais irrésistible, les positions françaises tombent. Et pour autant, et c'est la seule nouvelle positive en quelque sorte du côté des Français, l'avance allemande est relativement lente. Les dégâts causés aux Allemands par leur propre artillerie ralentissent la progression. Ça c'est très intéressant. En fait, on a l'impression que l'artillerie allemande n'est pas bien réglée dans cette affaire. Je vous parlais de Drian tout à l'heure. Il est l'exemple même de l'officier subalterne qui, à la tête de son détachement, va tout faire pour freiner cette avancée allemande. Eh bien Drian, le 22 février, dès le lendemain de l'offensive, va prendre une balle en plein front. À l'état-major, le général de Castelnau, qui est, ce qu'on peut dire, le bras droit de Joffre, je poserai tout à l'heure la question à nos spécialistes. Castelnau prend la mesure du désastre, il se rend sur place malgré la neige dans la nuit du 24 au 25 et simultanément on va nommer un chef d'état-major pour coordonner la défense du secteur de Verdun, c'est le général Pétain. Cependant, la situation est devenue plus qu'alarmante du côté français. La journée terrible du 25 février 1916 va voir se succéder les mauvaises nouvelles et au premier rang de ces mauvaises nouvelles, celles qui viennent du fort de Douaumont.
Un extrait de Verdun, suite pour orchestre composé par Patrice Delonne avec l'orchestre de la Garde républicaine à l'instant sur Europe 1. Il y a presque 100 ans, jour pour jour, débutait, Franck Ferrand, cette terrible bataille de Verdun que vous avez décidé de nous faire revivre cet après-midi sur Europe 1.
Nous sommes le 25, là maintenant, 25 février, aux alentours de 15h, Louvemont, après tant d'autres points, est tombé. Et à partir de là, tout s'enchaîne très vite. Les Allemands, l'infanterie allemande, se rapprochent du fort de Douaumont. Il y a sur place un régiment, c'est le 95e RI qui défend le village de Douaumont. C'est un régiment fatigué, mal en point, disons-le, qui vient de parcourir à pied 52 kilomètres. Il ne va pas opposer une résistance très très forte. Les Allemands sont surpris. Il n'y a pas un coup de feu qui viennent depuis le fort. Faut l'imaginer, ce fort, hein, dans ce paysage qui devient de plus en plus infernal. Ce fort qui est comme un mastodonte, hein, et qui a l'air de faire le dos rond sous son énorme carapace de béton. Or, pour les soldats allemands du 24e Brandebourgeois, le vrai problème, ce ne sont pas les Français, ce sont les Allemands, hein, d'une certaine façon. Une fois encore, c'est un problème d'artillerie. Ils ont lancé, ceux qui étaient dans les premières lignes, ont lancé des fusées pour régler les tirs d'artillerie, pour faire allonger le tir, mais l'artillerie allemande va faucher ses propres soldats, en fait. Les hommes du lieutenant Brandt et du capitaine Haupt approchent, persuadés qu'ils vont être accueillis par des tirs de mitrailleuse. Ils passent la grille, ils descendent dans les fossés, on est maintenant au bord, on est vraiment près du fort, et puis on va les voir remonter jusqu'au sommet du fort. Et enfin, des mitrailleuses françaises là réagissent depuis le village. Force est de l'admettre, le fort de Douaumont a été pris sans coup férir. À l'intérieur, les Allemands ne vont trouver qu'un vieux gardien de batterie, sa lampe torche à la main, 57 territoriaux qui sont là complètement décontenancés, il n'y a même pas d'officiers. Voilà le résultat donc de ce décret qui avait été pris, je vous le dis, en août 1915, hein, le 5 août 1915, et qui visait à désarmer les forteresses. Voilà ce que nous dit, je crois que c'est Guy Blond qui nous dit ça, Georges Blond, voilà, c'est ça. On cherche vainement trace dans les récits et documents concernant la bataille de Verdun d'une quelconque intervention au sein de quelque état-major d'un officier s'écriant par exemple « Mais le fort de Douaumont peut tout de même être plus utile qu'une tranchée, il faut le réarmer ». Par une chance extraordinaire justement, les canons en tourelle de Douaumont n'avait pas été ôté, cette opération offrant des difficultés. Envoyer d'urgence des artilleurs capables pour servir ces pièces aurait dû, semble-t-il, aller de soi lorsque l'assaut parut à tous imminent. Non, on avait laissé là seulement le vieux gardien de batterie avec une soixantaine de territoriaux. Pour être parfaitement exact, il faut quand même ajouter que le 24 février au matin se trouvaient dans le fort des unités de réserve d'un régiment territorial de la Veuvre. Seulement dans la soirée, donc la veille même de l'offensive allemande sur le fort, ces unités avaient suivi l'ordre, si vous voulez, du général Langle de Carry de retirer tous les territoriaux sur la rive gauche de la Meuse. Donc on a, non seulement le fort était depuis longtemps désarmé, mais on l'a vidé même de sa défense humaine. On avait considéré, en tout cas les territoires en question, ont considéré que l'ordre s'appliquait aussi à eux. C'était peut-être une erreur d'interprétation. Alors là, après, on entre dans les excuses de guerre. Vous savez, les officiers généraux, les responsables d'état-major vont passer des années pendant la guerre, mais surtout après la guerre, à se rejeter la responsabilité de ce pitoyable épisode, très coûteux, bien entendu. Le général Rouquerolles pourra ainsi écrire « L'abandon du fort de Douaumont équivaut dans l'ensemble de la guerre à la perte d'une centaine de milliers d'hommes ». Voilà l'équivalent en tout cas, voilà ce que c'est que cette perte. Certains officiers ont même été jusqu'à reprocher au 95e RI de n'être pas intervenu de son propre chef, comme si un régiment allait se mettre à intervenir tout seul sans en avoir reçu l'ordre. On croit vraiment rêver. Mieux vaut ne pas trop s'attarder sur ce genre d'excuses. Alors, dès le 26 février, le général Pétain s'installe au nouveau poste de commandement opérationnel à la mairie de Souilly. Il est à la tête donc de la 2e armée qui fait face à la 5e armée allemande. La prise de Douaumont a été un désastre, doublé d'un scandale certes, mais il ne faudrait pas que cet arbre cache la forêt. Parce que la réalité, c'est que dès à présent, la bataille de Verdun se révèle difficile, voire même négative pour les Allemands qui n'ont pas du tout manifesté la supériorité qu'ils en attendaient. Alors, Qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Est-ce que l'état-major allemand va décider de retirer ses forces, va décider de reconsidérer la situation? Ça, ce serait mal connaître l'état d'esprit d'un certain nombre de membres de l'état-major, persuadés encore, en ce tout début d'année 1916, de leur supériorité intrinsèque. L'offensive Falkenhayn sur Verdun peut être considérée comme un échec allemand, c'est vrai. Sans doute on avait concentré les troupes sur un front beaucoup trop étroit, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, 8 km. En fait, ça équivaut à étrangler littéralement les troupes dans une défense qui, elle, va évidemment en profiter pour se répandre, pour se disperser. Il y a eu des dégâts très considérables dans les troupes allemandes causées par la propre artillerie allemande, ça vous l'aurez compris. Mais il y a aussi, surtout ne diminuons pas cet aspect-là, il y a aussi en face une défense des poilus qui est une défense forcenée et qui va bien entendu beaucoup contribuer à donner à Verdun l'extraordinaire réputation de cette bataille, qui non seulement est une bataille extrêmement sanglante, extrêmement dure, mais est aussi une bataille où l'héroïsme a atteint des sommets.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et cet après-midi sur Europe 1, Franck Ferrand, vous avez décidé en partenariat avec Pèlerin Magazine de nous parler de la bataille de Verdun, car il y a 100 ans, quasiment jour pour jour, avait lieu l'une des batailles les plus sanglantes qu'a connue la France.
Cette bataille qui allait se perpétuer, parce que si on devait résumer la pensée de l'état-major allemand, c'est « on a échoué, on continue ». Donc, on pourrait parler d'une deuxième bataille de Verdun, avec son interminable litanie d'assauts, de contre-assauts stériles, pour quelques arpents, et c'est ce qui a beaucoup marqué les esprits, bien entendu, des assauts qui coûtent la vie à des milliers et des milliers d'hommes. C'est un acharnement qu'on a du mal aujourd'hui, peut-être, à comprendre. Cette bataille, vous le savez, ce sera celle de la revanche tenace et défensive, si l'on peut dire, sur l'humiliation de 1870, parce que c'est bien ça qu'ont à l'esprit les généraux français. Cette bataille doit en quelque sorte laver l'affront, le vieil affront qu'on a tant et tant remâché au cours des décennies. Et cette bataille, elle sera celle du général Pétain. Jusqu'où ? Alors justement, on y reviendra tout à l'heure avec Jean-Yves Le Naour. L'organisation, la discipline que Pétain fait régner vont sans doute beaucoup compter. Il met sur pied tout un système notamment de rotation qui permet de ménager les hommes et d'entretenir le moral, ce qui va lui donner une bonne réputation à ce général Pétain, qui devient en quelque sorte l'idole de la troupe avant de se hisser au rang de gloire nationale. Vous imaginez quelles conséquences ça aura sur un tout autre épisode de notre histoire un quart de siècle plus tard, bien entendu. C'est lui qui a eu l'idée, semble-t-il, de ce recours massif aux camions pour approvisionner le secteur de Verdun. Cette espèce de chemin de fourmis, hein, avec ses allers-retours, nuit et jour, ce que Barrès appelle la voie sacrée. Ce chemin, les hommes l'empruntent autant que les marchandises, ce qui permet de constamment renouveler les premières lignes. Du côté allemand, c'est exactement l'inverse, puisqu'au contraire, on a maintenu les mêmes unités en place, d'où un énervement, bien entendu, d'où un épuisement, et d'où, pour certains régiments, un véritable désespoir. Tout ça va jouer un rôle essentiel, bien entendu. En attendant, le chef d'état-major du Grand Priest, qui s'appelle Knobelsdorff, multiplie les assauts et les attaques limitées, avec pour effet de faire grimper littéralement le nombre de morts et de blessés. Les affrontements s'étendent début mars à la rive droite de la Meuse, le bois des Bourrues, Cumières, le bois des Corbeaux, mais évidemment, on continue toujours à se battre considérablement de l'autre côté. C'est bien une saignée qu'obtiennent les chefs allemands, mais une saignée dans les deux camps, avec des combats dont certains sont restés très célèbres. Il faudra peut-être qu'on revienne tout à l'heure sur un certain nombre d'épisodes qui sont entrés dans la légende. On pense évidemment au 137e Herry, vous savez, ces Bretons, ces Vendéens notamment, il n'y avait pas que ça, mais quand même, qui ont été littéralement enterrés vivants. Et quand on est à Verdun, on veut voir la célèbre tranchée des baïonnettes. Hein. C'est une image tellement forte et tellement extraordinaire. Alors cependant, le fléau de la balance paraît pencher du côté des Allemands. Mangin et ses coloniaux se sont finalement repoussés lorsqu'ils tentent de reprendre le fort d'Houmont. Les Allemands, eux, prennent le fort de Vaux, au sud-est de Douaumont. Et au mois de mai, Pétain est écarté par Joffre, pour des raisons peut-être de susceptibilité, on viendra tout à l'heure à ces questions très personnelles. Il est remplacé par Nivelle, du côté allemand, à la tête de la deuxième armée, bien entendu. Du côté allemand, c'est la stratégie ou la tactique, devrais-je dire, des couloirs de feu qui se révèlent pas très probantes, en vérité. Vers la fin du mois, c'est le bourg de Verdun qui est personnellement, si je puis dire, menacé au fond de sa cuvette là-bas. Il ne devra son intégrité qu'à ce qu'il reste de la 3e compagnie du 7e RI, quelques 60 hommes sous les ordres d'un simple lieutenant Kléber Dupuis, qui est un ancien instituteur et pacifiste qui plus est, et qui va réussir à briser l'armée ennemie. On a très peu de moyens là, hein. C'est avec 3 mitrailleuses que ça se fait cette affaire. Cet assaut allemand va se heurter au feu croisé des deux artilleries. Toujours ce problème d'artillerie, hein, qui à mon avis est essentiel dans une bataille qui après tout a été conçue par et pour l'artillerie, d'une certaine manière. Sur les 60 hommes de Kléber Dupuis dont je vous parlais, il n'y en a que 15 qui vont survivre. Le même 12 juillet 1916 au soir, Falkenhayn, enfin rassasié de sang, si j'ose dire, va faire suspendre les attaques. Il est remplacé par Hindenburg à la fin du mois d'août. Et on peut dire que, en tant que telle, la bataille de Verdun est close. Mais, et alors bien sûr, elle va laisser un souvenir extraordinaire, quelque chose d'absolument horrible et en même temps peut-être de sublime à l'échelle de l'Europe et à l'échelle même de la civilisation. J'espère qu'on aura suffisamment de temps tout à l'heure pour évoquer cet aspect culturel de la bataille de Verdun. Alors, le raid du côté français à la reconquête du terrain perdu. Or, parmi les places fortes à reprendre figure bien sûr au premier rang le fort de Douaumont. En octobre 1916, il y a des pluies terribles en octobre, hein, qui ont commencé à la fin du mois de septembre. Il y a de la boue partout, il faut imaginer, cette terre qui n'a guère encore été craquelée, desséchée, maintenant devenue une espèce de terrain bourbeux, qui crée une sorte de trêve tacite, si l'on peut dire. Eh bien, le 9 octobre, Joffre est à Souilly, au PC de Nivelle. Clémenceau y sera 3 jours plus tard. Et Nivelle explique ce qu'il va faire. Il a 8 divisions à opposer aux 7 divisions allemandes, 3 attaqueront en première ligne, 3 en deuxième, 2 seront réservés à l'arrière. Et un peu à la manière des Allemands, si je puis dire, réponse du berger à la bergère, on fait une préparation d'artillerie exceptionnelle. Le 21 octobre, 650 canons français se mettent en branle en même temps. Il y en a 800 hein, de l'autre côté. Mais la précision de tir des Français est très supérieure. On lance... C'est une bataille. Enfin, c'est encore une offensive incroyable. L'action sur place va être menée par le fameux général Mangin, hein, avec ses moustaches, je sais pas si vous l'imaginez, si vous le voyez, petit personnage assez étonnant. Le 24 octobre, donc, à 11h40, les Allemands sont attaqués dans ce qui est le symbole, en quelque sorte, dans ce fort Douaumont. On avait commencé à partir du 23 un véritable pilonnage, hein, des bombardements absolument extraordinaires. Le premier choc effrayant se produisit à 12h30, nous dit Georges Blond, pendant une durée qui parut à tous interminable, mais qui en fait n'excéda pas 1 seconde et demie. Des officiers, le notaire, donc 1 seconde et demie. Le grondement de l'artillerie fut couvert par un bruit différent, une sorte de hurlement enroué qui semblait descendre des hauteurs du ciel. Il y eut aussitôt ensuite comme un petit éclatement assez surprenant par sa modération, puis un bruit sourd, puis une fraction de seconde plus tard, un tonnerre assourdissant avec un déplacement d'air. Les hommes immobiles dans les casemates et dans les couloirs, donc de ce fort, avaient l'impression qu'un énorme aérolithe, un morceau de planète venait de pénétrer et d'exploser à l'intérieur du fort. Il s'agissait du premier projectile français de 400. Alors il va y avoir un deuxième, un quatrième, un troisième, quatrième, cinquième, sixième obus qui lui attaque et touche le dépôt de munitions et fait tout sauter d'une certaine manière. Il est 14h à ce moment-là quand la lumière s'éteint dans le fort. À 16h, les hommes sont, tous ceux qui ne sont pas indispensables sont évacués, mais vous avez encore des gens qui sont là et qui se battent. C'est complètement incroyable. Dehors, il y a un brouillard considérable créé par toutes ces explosions, bien entendu, et nous allons vous raconter ça dans un instant. Un homme va se faire une réputation dans cette circonstance extraordinaire. Il s'appelle Ulysse Le Nain. Bonjour Sophie Laurent, bonjour Jean-Yves Le Naour. On va revenir dans un instant sur les chiffres, parce que je me suis trompé, hein, sur le nombre de morts et sur le nombre de pertes. Donc on y revient dans un instant. Et puis nous aurons tout le temps de développer les sujets que pose, les questions que pose cette bataille de Verdun.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et nous parlons de la bataille de Verdun cet après-midi sur Europe 1. Il y a quasiment jour pour jour 100 ans débuté cette bataille qui va durer très longtemps et qui va faire de nombreuses victimes. Franck Ferrand, vous recevez Sophie Laurent, grand reporter chargé des dossiers Histoire à Pèlerin, puisque c'est une émission en partenariat avec Pèlerin, dont le hors-série 1916 Verdun, la bataille est en kiosque depuis hier. Vous recevez également Jean-Yves Le Naour, docteur en histoire.
Oui, il se trouve que j'ai donné un petit entretien à Sophie Laurent, mais c'est vrai que ce numéro de Pèlerin est particulièrement bien fait. Il y a tout un cahier à détacher qui a un aspect pédagogique, si je puis dire. Ça s'adresse aux plus jeunes, notamment.
Voilà, c'est pour les collégiens.
Et puis on a une vision globale de toute la bataille, de tout le champ, ce qui est très pratique et ce qui permet de s'y repérer. Quand on parle de rive droite, rive gauche, la Meuse, elle coule vers le nord. Donc la rive droite, c'est l'est, et la rive gauche, c'est l'ouest. Mais il y a tous ces forts, toutes ces batailles, ces offensives, etc., qui s'échelonnent, qui plus est dans le temps. Donc c'est bien d'avoir des cartes pour s'y repérer. C'est bien aussi d'avoir des chiffres, Jean-Yves Le Naour. Et je vous ai vu sursauter, tomber de votre chaise au tout début de mon récit, parce que j'ai parlé de 700 000 morts, c'est 700 000 pertes en fait. Hein.
Oui, excusez les historiens, ils sont un peu tatillons parfois. Mais vous aviez corrigé sur votre compte Twitter, oui, je l'ai fait. Vu en même temps. Voilà.
Oui, donc en fait, expliquez combien de morts.
Il y a 300 000 morts en tout, 163 000 Français, 140 000 Allemands. Donc 300 000 morts en tout pour toute la bataille, mais 700 000 pertes, c'est-à-dire blessés, disparus, prisonniers et morts.
D'accord. Alors, les disparus...
Souvent, ils vont être comptés parmi les morts. Mais pendant la guerre, il y a toujours cette présomption qu'ils sont prisonniers.
Oui, qu'ils peuvent, oui.
Voilà. Donc ensuite, un an après la guerre, ils seront transcrits de disparus en morts, voilà, en décès, pour qu'il puisse y avoir des héritages, que les veuves puissent se remarier, etc.
On peut peut-être régler la question tout de suite, comme ça évitera qu'on la reporte à la fin de l'émission et qu'on finisse par l'oublier. D'un point de vue culturel, en quelque sorte, Verdun, c'est la bataille absolue, d'une certaine manière. Quand on dit Verdun, aujourd'hui encore, à peu près tout le monde, et toute génération confondue, c'est rare qu'on puisse dire ça aujourd'hui, mais là, quand même, les gens savent à quoi on fait référence, c'est-à-dire l'enfer de la bataille, ces roulements d'artillerie extraordinaires.
Oui, et cela vaut pour les Français, évidemment. Pour les Anglais, en revanche, c'est la Somme.
Et oui, c'est vrai,
Somme,
bien sûr.
Qui est vraiment
qui a été plus meurtrière.
Plus
d'ailleurs.
Meurtrière, mais moins pour les Français. Donc effectivement, pour les Français, Verdun, c'est l'horreur. Et effectivement, il y a une logique même derrière la bataille de Verdun, qui est une logique nouvelle, qui est celle de la bataille de matériel. Vous l'avez bien dit, les Allemands ont amassé les canons et ont voulu marcher sur des cadavres. C'est-à-dire, ont voulu annihiler absolument toutes les résistances françaises. Et ça, cette volonté d'anéantissement était complètement nouvelle. On était rentré dans une nouvelle forme de guerre.
Ouais, c'est une guerre qu'on aurait aimé ne jamais connaître, mais enfin bon, on était dans une sorte de guerre totale et jusqu'au bout d'une certaine manière, et qui ne tient pas compte des résultats sur le terrain. C'est pas pour défendre le 18e siècle, mais autrefois quand on avait perdu une bataille, on l'avait perdue. Là, on l'a perdue, mais tant pis, on recommence le lendemain matin. Quoi. C'est
oui, ça. Et vous savez pourquoi ? Vous l'avez un petit peu dit, mais c'est que Falkenhayn y s'entête parce que il est menacé dans son poste. Vous avez dit qu'il y a Hindenburg qui est en train de
lui dire là, bien sûr,
qui le conteste, qui disent mais il faut d'abord attaquer.
Ça commence à être la discorde au sein de l'état-major allemand.
Oui, exactement. Et donc, il lui faut une victoire. Et c'est pour ça qu'il s'entête. Puis bon, à un moment donné, il sera remplacé.
Est-ce qu'à Verdun, aujourd'hui, Sophie Laurent, on est conscient d'être dépositaire d'une mémoire très particulière ?
Ah oui, je crois. Même si la ville a envie qu'on ne parle pas que de la bataille et que de toutes les
destructions. Oui, parce que c'est une ville qui a une très très riche histoire par
absolument.
Ailleurs.
Absolument. Et alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, cette ville n'a pas été détruite par la bataille de Verdun. Moi, ça m'était... Ma grande surprise, la première fois que j'y suis allée en reportage, c'est que il existe un vieux Verdun, la cathédrale est très belle, il y a un archevêché du XVIIIe siècle splendide qui est devenu un centre mondial de la paix d'ailleurs, tout un programme qui montre que Verdun veut passer à une autre étape. Et puis il y a des jolis bords de Meuse où on peut flâner, surtout l'été d'ailleurs, parce que l'hiver c'est un petit peu plus rude. Mais contrairement à ce qu'on pourrait imaginer vu l'aplatissement du plateau, si j'ose dire, où a eu lieu le champ de bataille, qui a servi de champ de bataille, la ville elle-même a été finalement assez peu détruite, enfin moins que la propagande française l'a laissé entendre pour nourrir le mythe d'une ville martyre, en
bien
fait.
Bien sûr, bien sûr. C'est tout le secteur dont il faudrait parler, bien voilà. entendu. C'est ce que vous faites, d'ailleurs, dans ce numéro spécial. Hubert, pour en finir avec ses affaires de comptabilité morbide, nous demande si Verdun a été la bataille la plus longue et la plus meurtrière de l'histoire. Alors, d'abord, il faut savoir ce qu'on appelle bataille. Pour résumer les choses, et sans doute à des fins, d'ailleurs, de propagande, on a parlé de la bataille de Verdun. En fait, c'est une infinie succession de batailles. Donc, on ne peut pas comparer ça avec les petites batailles qui duraient 2 ou 3 heures autrefois. La Somme, nous dites-vous, a fait de toute façon plus de morts. Et puis, alors après, sous la Seconde Guerre mondiale, il y a eu notamment le siège de Stalingrad qui a fait 1 million de morts, hein, cette fois, je ne parle pas de pertes, 1 million de morts, dont 250 000 civils environ. Donc, il y a eu encore pire, si je puis dire. Bon, alors, revenons à l'organisation de cette bataille, Jean-Yves Le Naour. Comment est-ce que ça se passe? L'état-major allemand a décidé de reprendre l'offensive. C'est ça l'histoire. On est à la fin de l'année 1915 et il faut tourner la page d'une certaine façon.
Oui, alors au sein de l'état-major allemand, il y a deux écoles. Justement, il y a Edenburg et Ludendorff et puis de l'autre côté, Falkenhayn. Mmh. Et il y a ceux qui veulent continuer à frapper les Russes, à vaincre les Russes et puis à rester sur la défensive à l'ouest. Et ceux, au contraire, les occidentaux, comme on les appelle, qui veulent donner un coup de massue à l'ouest. Et Falkenhayn en fait partie. Et donc, vous l'avez dit, vous avez expliqué que ça serait intéressant de faire un abcès de fixation, un endroit fort symbolique, en tout cas du front français, Belfort ou Verdun. Et effectivement, on s'aperçoit que finalement l'intérêt, il est peut-être plus politique, moral, symbolique pour les Allemands que militaire. Puisqu'après tout, prendre Belfort ou, comme on l'a décidé finalement, prendre Verdun, eh ben, ce n'est pas mettre fin à la guerre. C'est simplement créer un choc chez les Français. Parce que si les Français, ils croient à l'époque, ils ne savent pas qu'on a désarmé les forts, comme vous l'avez rappelé. Eh bien, si les Français croient que Verdun, c'est la position la plus fortifiée et la plus forte de leur front, ils seront abattus d'apprendre qu'en 3 jours, cette position est tombée.
Et voilà. Donc il y a des symboles, là, on veut faire tomber des symboles. Sauf que ça marche pas aussi bien qu'on aurait pensé. C'est ça qui va surprendre les Allemands eux-mêmes.
Et oui, 1,5 million d'obus en une seule journée, c'est absolument fou. Et
quand on le dit comme ça, ça paraît, mais c'est un déluge sans aucun précédent là pour le coup. C'est transformer le monde en enfer absolu.
Il n'y a pas de tranchées.
1,5 million d'obus.
Il n'y a plus que des trous d'obus. Et vous avez parlé de Drian, du bois des corps qui est à l'extrémité. Mais vous avez, ça matraque tellement, si vous voulez, qu'il y a des soldats qui finissent par s'endormir. Parce que c'est la dernière parade du cerveau pour pas devenir fou. Il y a un bruit, c'est un enfer. On voit dans le bois des corps, vous avez parlé de ce barrage roulant qui arrive sur les soldats, les arbres volent. Hein, devant les soldats, et ils voient arriver ce barrage roulant sur eux. Ils étaient 1300 à 7h du matin, à 16h ils ne sont plus que 400.
Oh là là.
Et le lendemain ils sont 110.
Oh mon Dieu. Oui, ça paraît complètement. C'est un sacrifice quasiment absurde. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on se demande, et ça va être encore plus vrai, plus on va avancer dans le conflit avec ces assauts et ces contre-assauts, on se demande à quoi servent ces attaques, puisqu'elles n'ont pas sur le terrain d'effets concrets, Sophie Laurent.
Il y a une volonté politique de tenir coûte que coûte, hein, qui se manifeste dès le 24 février.
Et c'est pas défendre, tenir.
Voilà. Hein, et c'est pas seulement Joffre, c'est aussi Aristide Briand, président du Conseil, qui, voyant aussi le malaise de la population essentiellement parisienne, hein, qui se rappelle la bataille de la Marne, qui a peur d'une percée des Allemands à cet endroit-là. Et donc, les ordres sont tout de suite donnés de tenir coûte que coûte la rive droite donc de la Meuse. Et c'est ce qui est un peu absurde, parce que il y avait un autre plan militaire qui pouvait très bien tenir en se repliant de l'autre côté. Mais à ce moment-là, et c'était pas déshonorant, mais à ce moment-là, la ville tombait. Et ça dans l'imaginaire, enfin dans la mentalité des politiques, de la population et des militaires, c'était difficile à admettre. Et donc, c'est ce qui a fait qu'on a piétiné et on a tenu coûte que coûte au prix de milliers de vies.
Alors, on a parlé un peu de Falkenhayn et de son remplaçant Hindenburg. Du côté français, il y a le général Joffre, bien entendu. Et en dessous, il y a le général de Castelnau, le général Pétain, le général Nivelle. Nous y venons dans un instant.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Alain Flelou, j'ai vu la pub Win-Win partout à la télé. Win-Win, ça marche aussi avec des verres progressifs?
Oui.
C'est nouveau ça?
Oui.
Avec deux montures de marque?
Oui.
Équipées de verres progressifs garantis à vie?
Oui.
Et si ma vue change, vous les remplacez aussi gratuitement mes verres progressifs?
Oui.
Et tout ça pour 21,90€ par mois?
Oui, pendant 24 mois.
Finalement, le pack Win-Win verres progressifs, c'est fou. C'est vraiment les lunettes sans les problèmes.
Je ne le fais pas dire.
Crédit gratuit 0% sous réserve d'acceptation par Cofidis, montant du 525,60€. Délai légal de rétractation. Plus d'infos sur alainflelou.fr, dispositif médical CE.
Seat. Les mentions légales de l'offre de reprise Seat sur toute la gamme Ibiza, eh bien moi je refuse de les dire à toute vitesse. Elles méritent que j'articule. Alors pour l'achat d'une Seat Ibiza neuve, livrée avant le 31 mai, Seat reprend votre véhicule de moins de 10 ans aux conditions de l'Argus plus 3 000€. Vous voyez, c'est bien de prendre le temps. Offre valable jusqu'au 31 mars dans le réseau Seat participant. Oh, j'oubliais, pour les voitures de plus de 10 ans, reprise d'au moins 3 000€ aussi. Hein. Des mentions légales comme ça, ça se respecte, non? Conditions sur Seat.fr.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
La marche française, extrait de l'album Verdun, suite pour orchestre composé par Patrice Delonne sur Europe 1. Vous l'avez compris, aujourd'hui, nous vous parlons de cette bataille très meurtrière, Verdun 1916, avec vos invités, Franck Ferrand, Sophie Laurent, grand reporter, chargé des dossiers Histoire à Pèlerin, avec ce hors-série 1916 Verdun, la bataille, en kiosque depuis hier. Et puis Jean-Yves Le Naour, docteur en histoire et auteur, entre autres, de 1916, L'Enfer, paru chez Pèlerin, et auteur d'une BD Verdun avant l'orage avec les dessinateurs Marco et Olgado, paru chez Bambou Éditions.
Vous savez que lundi, là, le 22 février, on va rouvrir le mémorial qui avait été fermé pour des travaux de modernisation, d'agrandissement, etc. Et la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est évidemment de se rendre à Verdun. Il y a des émotions qui ne peuvent pas être transmises autrement que par la présence sur les lieux. C'est vraiment une visite que je ne peux que vous engager à faire. Alors, il y a un circuit du souvenir, hein, dans votre numéro spécial, Sophie Laurent, et des photos de Stéphane Combe Point qui nous montre Verdun comme on ne l'a jamais vu, ça il faut dire.
Oui, tout à fait. Stéphane Compoint s'est fait une spécialité d'attacher, si je puis dire, son appareil photo à un ballon qui lui permet de prendre des photos.
Il a fait de très beaux monuments. Hein,
voilà,
etc.,
oui. Parce qu'il peut en plus aller à l'intérieur des monuments.
Oui, bien sûr.
Et contrairement avec les drones qui sont plus dangereux. Et il a pu faire survoler à son appareil photo les principaux monuments commémorant. Et le dessin du champ de bataille apparaît parce que, évidemment, depuis 100 ans, la végétation a repris ses droits. Mais grâce à ces images, on voit très bien à quoi ressemblait le fort de Douaumont et à quoi ressemblait le paysage troué de multiples cuvettes laissées par les obus.
Qui a été tout simplement bouleversé par ce qui s'est passé.
C'était lunaire.
Bien sûr. Laurence me fait amicalement observer que dans la Meuse, la Veuvre, ça se prononce Wavre, me dit-elle, sur place. Bien, ça, dont acte, chère Laurence. Et Michel de Castelnau, qui doit descendre directement du général du même nom, me fait observer que la défense de Verdun ne pouvait se faire sur la rive gauche de la Meuse, celle-ci étant moins élevée que la rive droite. Ça a eu donné un atout supplémentaire à l'artillerie allemande et c'est pour cela que le général de Castelnau, muni des pleins pouvoirs par Joffre, décida de réorganiser cette défense dès le 25. Alors justement, j'étais hier en compagnie de Patrick de Gmelin et j'en ai profité, puisqu'il est le biographe de Castelnau, pour lui demander quel a été le rôle précis du général de Castelnau dans cette affaire.
Il était très important puisqu'il est à l'époque chef d'état-major du général Joffre, qui n'est pas encore maréchal, et ça se passe mal à Verdun. On le sait depuis longtemps et un soir, il discute avec Joffre et il se demande comment orienter la bataille. Le secteur fortifié de Verdun, ce qu'on appelle le SFV, est sous le commandement du général de Langue de Carrie. Et ça ne va pas. Castelnau retourne dans la soirée, il est à Chantilly, il quitte l'hôtel du Grand Condé où est l'état-major, il rentre dans sa villa, il étudie les plans et en pleine nuit, il se dit « pour donner les ordres qui vont bien, il faut aller sur place. Il retourne donc à l'hôtel de Condé. Un aide-de-camp est là, je crois que c'est le commandant de Galbert, grand-père du futur général de Galbert. Et il demande à voir Joffre. Mais Joffre, à cette heure-ci, il dort. Et quand Joffre dort, on ne le réveille pas. Castelnau insiste et demande l'autorisation de partir pour Verdun sur l'heure. Et il reçoit l'autorisation par un petit papier qui est passé sous la porte et qui donne les pleins pouvoirs. Il part donc avec les pleins pouvoirs, il peut faire ce qu'il veut. Il est en quelque sorte le chef de l'armée. Il part donc dans la nuit, tempête de neige épouvantable. Son chauffeur réussit à atteindre le PC où se trouve le général de Languedoc-Rhin. Et Castelnau l'interroge, et l'interroge de telle manière qu'il le laisse un petit peu de côté. Le Languedoc-Rhin a l'impression d'être vraiment exclu de ce qui va se passer. Et c'est en réalité ce qui va se passer. Et à l'époque, Castelnau donne l'ordre de nommer un chef. Donc il écarte de l'angle, il décide de lui-même de nommer le général Pétain. Pétain qu'il n'apprécie pas particulièrement, et ça durera d'ailleurs bien au-delà. Et il envoie chercher Pétain. Pétain est en train de compter fleurette à une dame, et l'officier, qui en pleine nuit, parce que tout ça se passe en quelques heures, arrive dans l'hôtel où le général Pétain est descendu, voit une paire de bottes et une paire de bottines devant la porte, et il va faire ouvrir la porte en frappant, et Pétain dit « bon, je viendrai demain matin ». « Non, 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 le général de Castelnau veut que vous veniez immédiatement ». Et Pétain remet ses bottes, part à l'état-major, rencontre Castelnau, qui, sur un manifold, lui donne l'ordre de prendre le commandement du secteur fortifié de Verdun. Et c'est donc lui...
C'est ce qui s'appelle rendre à César, ça. Hein
exactement. Donc, l'ordre...
De nommer Pétain,
c'est Castelnau, tout à fait régulièrement, puisqu'il est muni des pleins pouvoirs par le général Joffre. Et ça, c'est une chose qu'on dit peu ou mal, et je pense qu'il faut le rétablir. Et quelqu'un a dit, il n'y a pas longtemps, s'il n'y avait pas eu Castelnau, il n'y aurait pas eu Pétain, et sans doute toute la suite.
C'est assez étonnant, cette version, puisqu'on a l'habitude de lire que c'est Joffre qui nomme Pétain. En fait, c'est avec les pleins pouvoirs Castelnau qu'il nomme Jean-Yves Le Naour.
En fait, ce que fait Castelnau d'essentiel quand il arrive à Verdun, c'est qu'il ordonne de se défendre sur la rive droite. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, Douaumont, finalement, avait été évacué et les troupes étaient en train de reculer. Pourquoi ? Parce que Languedoc-Rhin qui commandait le front du centre, parce que le général R qui commandait la région de Verdun considérait que c'était foutu, que la rive droite de la Meuse était foutue et donc on n'avait plus qu'à se reporter derrière la Meuse et à arrêter les Allemands derrière la Meuse. Mais Castelnau, il arrive, il y avait les renforts qui étaient déjà là, et on les laissait pas passer sur la rive droite. Parce qu'on se disait, mais si on les laisse passer le 20e corps, les Allemands vont bombarder les ponts et vont se retrouver prisonniers avec leurs canons,
coincés de l'autre côté.
Et Castelnau, lui, prend la responsabilité de faire passer le 20e corps. Donc c'est ça, véritablement, cette décision du 25 février. Pétain, lui, par Joffre, il a reçu la mission de défendre le secteur sur la rive gauche. Et c'est Castelnau qui, sur un coin de table, avant minuit, lui dit, non, vous allez prendre tout le secteur, y compris la rive droite. C'est-à-dire c'est Castelnau qui a décidé qu'on se battrait.
Castelnau a donc montré les dents ce jour-là. Il demande à Pétain d'agir tous azimuts. Quel va être le rôle essentiel de Pétain dans cette histoire ?
Vous savez, la bataille de Verdun n'est pas une bataille stratégique. C'est une bataille où on alimente, c'est-à-dire qu'on envoie des soldats.
Il faut un logisticien, en fait, c'est ça ?
C'est ça. C'est pas une bataille où un grand génie... Il n'y a pas de manœuvre. Voilà. Donc, ce que fait Pétain, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est la fameuse Noria, c'est-à-dire qu'il faut alimenter la bataille par la voie sacrée, par ces camions qui peuvent apporter 20 000 hommes par jour, qui roulent par choc contre par choc, qui sont pleins d'hommes à l'aller, et puis qui sont vides au de retour, ou alors qui remportent justement ceux qui redescendent, qui sont tout crottés, blessés, etc. Donc c'est une organisation, Pétain. Mais ensuite, Pétain, il a commandé seulement 2 mois à Verdun. On a toujours tendance à le présenter comme un vainqueur de Verdun, mais Nivelle a commandé 7 mois et demi à Verdun, et Pétain n'a commandé que 2 mois. Il faudrait quand même rappeler ça. Et
ensuite, il faut relativiser, donc.
Oui, et ensuite, si Pétain a été éloigné, c'est parce que Joffre a vu qu'il commençait à être populaire, et donc il l'a un petit peu promu pour l'éloigner, et il a donné le commandement à Nivelle. Et c'est Nivelle qui, à la fin de l'année 1916, vous avez rappelé la reprise de Douaumont, la reprise de Vaux, hein, et c'est Nivelle qui était considéré comme le vainqueur de Verdun en décembre 1916.
Alors ça, ce sont les grands personnages, si je puis dire, mais il y a aussi les petits, Sophie Laurent, auxquels vous vous attachez. Et il y a un article de Philippe Demnay qui s'appelle « Moi, Achille Bardin, j'ai vécu l'enfer ». Et là, on entre dans la réalité, si je puis dire, de la bataille.
Tout à fait, mais il se trouve qu'il y a 2 ans, un de nos lecteurs, âgé de 89 ans et qui est d'ailleurs décédé depuis, nous a confié le journal tenu par son petit, enfin grand cousin, plus oui. exactement, puisqu'il il était 2 générations plus vieux, Achille Bardin. Et cet homme tonnelier dans le Bordelais a vécu les 4 ans de guerre, même les 5 ans, parce qu'ils n'ont pas été démobilisés tout de suite. Et il est allé partout, y compris à Verdun, bon, comme 70% des soldats français. Mais on a décidé de publier son journal parce qu'il nous a semblé symptomatique de ce que vivait le poilu lambda. Et son récit, il a été brancardier à Verdun, est assez typique, en fait, de l'horreur au ras de la boue, je dirais.
Il faut dire que c'est que pour tous ces hommes du rang, Pétain avait quand même une aura extraordinaire. Vous le traitez d'imposteur dans Historia, vous, Jean-Yves Le Naour.
C'est-à-dire qu'on a construit un mythe autour de Pétain. Voilà, il a vaincu, etc. Mais
c'était le nouveau Carnot.
Voilà. Je rappelle effectivement qu'à la fin de l'année 1916, c'était Nivelle. Simplement, Nivelle a été effacé de notre mémoire parce qu'il est le vaincu du chemin des dames. Et donc, ensuite, Pétain a pu s'imposer. Et ensuite, ça a été une telle propagande, etc. Ensuite, je veux dire, dans ce dossier d'Historia, qui nous a aussi causé beaucoup de courriers, eh bien, je veux dire aussi que la gloire de Pétain qui a lieu en mars, les articles de journaux qui vont vanter Pétain, etc., et qui vont construire sa légende, c'est une gloire qui est très médiatique et qui est très politique. Pourquoi ? Parce que les politiques, les parlementaires, les journalistes, eh bien, critiquent Joffre. Ils veulent qu'on se débarrasse de Joffre. Et pour se débarrasser de Joffre, on chauffe la place d'un remplaçant.
Mais oui, il faut toujours avoir le contrepoids, bien
entendu. Et c'est pour ça que Joffre, il a bien compris, c'est pour ça qu'il éloigne Pétain.
Et voilà, qu'il fait revenir Nivelle, en fait.
Mais c'est aussi parce que Pétain, à ce moment-là, à Verdun, comprend l'intérêt de la médiatisation. Au début, il aime pas trop
les
journalistes.
Mais c'est un communicant, si on peut
voilà,
dire.
Mais là, il découvre l'intérêt d'être un peu sur le devant de la scène.
Il va faire venir deux écrivains dans son état-major.
On parle beaucoup du numéro, de ce numéro exceptionnel, de ce numéro hors série de Pèlerin, bien entendu. Nous sommes en partenariat aujourd'hui. Je viens de dire un mot d'Historia. Il faut dire que le Figaro Histoire aussi consacre un numéro à Verdun. On va beaucoup parler de Verdun là dans les temps qui viennent. Et pour cause, c'est quand même la moindre des choses. 100 ans après, et si j'en crois vos messages, vous êtes très nombreux à nous dire rendons hommage, n'oublions pas, pensons à tous ceux qui sont tombés, etc. Je pense que c'est la première chose à faire, évidemment. Au-delà du travail d'histoire, il y a un devoir de mémoire, bien entendu. Alors, un petit mot justement sur les hommes. On a parlé de cet instituteur, on a parlé de ce monsieur-là. Je disais un mot d'Ulysse Le Nain, par exemple, qui va tout seul, prendre le fort d'Hautmont, hein, si je puis dire. C'est-à-dire que c'est une espèce de héros invraisemblable qui descend à l'assaut au moment où on va reprendre Douaumont. Il y a comme ça il y a des héros qu'on met en avant peut-être pour donner du moral aux troupes. Hein, c'est peut-être ça.
Et il y a aussi, par exemple, le commandant Reynal,
oui,
qui défendait
voilà.
le fort de Vaux avec, là, on a vanté la résistance, mais de ces soldats de Vaux qui étaient encerclés par les Allemands, qui ont tenu pendant une semaine sans boire. Voilà, avec le dernier pigeon. C'est connu, cette histoire du pigeon vaillant. C'est mon dernier pigeon, hein, écrit le commandant Reynal. Venez à notre secours, nous n'en pouvons plus, c'est mon dernier pigeon.
Oui, on peut dire que d'une façon générale, on a écrit la légende aussi, en même temps, presque au moment même, en même temps que les événements
Surtout
arrivaient.
Surtout qu'il y avait la honte de la chute du fort de Douaumont à effacer.
Il fallait faire oublier, bien sûr. Il fallait faire oublier
la défense de Vaux. Oui.
Replonger dans ces combats, nous dit Benoît Fidelin dans l'éditorial de ce beau hors-série de Pèlerin, c'est à 100 lieues de toute gloriole rendre hommage à la volonté et à la souffrance des soldats broyés dans la première bataille symbolisant la guerre industrielle. Ce que nous avons fait, disait encore Maurice Genevoix, c'est plus qu'on ne pouvait demander à des hommes, et nous l'avons fait.
Au cœur de l'histoire,
retour aux origines.
Et au
aujourd'hui. Franck, une question de Claude sur le site internet europe1.fr. Pourriez-vous revenir sur l'origine des sous-marins?
Oui, alors évidemment, on a tous à l'esprit ce dessin de Léonard de Vinci qui présente des plans d'un sous-marin de guerre, mais on est totalement dans l'imaginaire, là, bien entendu. C'est en 1624, je dis bien 1624, que le Hollandais Cornelius van Drebbel développe un premier sous-marin de bois et de cuir qu'on manœuvre avec des rames. Il peut descendre à 5 mètres de profondeur. Il a été testé dans la Tamise devant le roi Jacques Ier. Il sera utilisé quelques années plus tard pour tenter de détruire la digue. Vous savez, cette grande digue que Richelieu avait fait bâtir au moment du siège de La Rochelle. Sans succès. Alors, en 1776, donc quand même 150 ans plus tard, on est au début de la guerre d'indépendance américaine, David Bushnell met au point le premier sous-marin de combat qu'on appelle le Turtle, ça ne s'invente pas. C'est ensuite encore un siècle plus tard qu'on va avoir les premiers sous-marins effectifs. On en parle beaucoup en 1870 dans 20 000 lieues sous les mers, évidemment, de Jules Verne. Et bien entendu, c'est lors de la Première Guerre mondiale que les sous-marins vont devenir significatif d'un point de vue militaire, avec l'emploi d'environ 250 sous-marins de combat. On avait raconté ici, même à plusieurs reprises, je crois, l'affaire du Lusitania notamment, mais ce n'est qu'une des très très nombreuses histoires de sous-marins de la Première Guerre mondiale. Alors justement, pour ce qui est de la Première Guerre mondiale, Jean-Yves Le Naour a fait paraître chez Perrin 1916, il y avait eu 14, 15, 16, il y a 17 qui est déjà sorti, on attend 18 bien entendu. Donc 1916 de Jean-Yves Le Naour, sous-titré L'Enfer chez Perrin, et puis donc en kiosque depuis hier, ce numéro exceptionnel hors série de Pèlerin 1916, Verdun, la bataille avec les plans, les photos et les articles et tout le reste. Merci beaucoup.